autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs pour poursuivre dans ces rediffusions estivales nos interrogations sur la préhistoire de notre humanité en nous demandant pourquoi la moitié d'entre elles, la part féminine de l'humanité, a été si longtemps négligée, oubliée, occultée. L'homme préhistorique était aussi une femme, comme nous le rappelait avec malice et à juste titre dans son dernier ouvrage, la préhistorienne Marilyn Patoumatis. Après avoir réhabilité Néandertal, si j'ose dire, et chassé sur les terres des mammouths, cette formidable empêcheuse de penser en rond notre longue histoire s'attache désormais à sortir de leur grotte les femmes chasseuses, cueilleuses, artisanes, guerrières et artistes de la préhistoire, trop souvent cantonnées à un rôle purement subalterne et domestique. Marilyn Patoumatis, comme d'autres paléontologues et anthropologues aujourd'hui, démontre le contraire en démontant au passage pas mal de nos préjugés. Nous vous proposons de réécouter l'entretien qu'elle nous avait accordé le 21 octobre dernier autour de la question « Où sont les femmes préhistoriques ?» Bienvenue pour revisiter ensemble notre album de famille avec pour première guide la paléoartiste Elizabeth Daines qui l'a reconstituée grandeur nature.
À gauche, la petite femme de Florès, qui est une toute petite femme de 1,6 m, découverte sur l'île de Florès, et qui est datée, je crois, aux alentours de moins de 18 000 ans. À sa gauche, un mâle australopithèque afarensis, donc moi j'appelle Lucien, donc il pourrait être le mâle de Lucie, mais qui est beaucoup plus grand, qui fait à peu près 1,45 m, qui est très robuste. Pour faire cette reconstruction, nous avons transposé le squelette de Lucie, que l'on a agrandi, afin de pouvoir faire la reconstruction. Bon, reconstruction, bien sûr, là, qui est une hypothèse, puisque bon, là, nous avons quand même manqué d'éléments pour le corps, et qui sera peut-être, je l'espère, étayé dans le futur par de nouvelles découvertes de squelettes complets de cette famille. Vraiment, chaque reconstruction est le fruit d'une collaboration étroite avec des équipes scientifiques. Et ces choix ne sont jamais faits de manière anarchique, c'est leur proposition. Et j'espère qu'il va pouvoir séduire le public, lui transmettre une émotion forte et donc l'amener à se poser des questions sur nos origines, parce qu'au final, c'est ce que je recherche.
Se poser des questions, de nouvelles, d'autres questions sur nos origines et notre préhistoire, c'est aussi ce qui vous anime, Marilyn Patoumatis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous.
Merci à vous.
C'est toujours un grand plaisir de recevoir la préhistorienne que vous êtes, directrice de recherche au CNRS, chercheuse de terrain et sur tous les terrains, auteure de plusieurs ouvrages qui à chaque fois ont bousculé nos croyances, fait avancer nos connaissances. On peut citer évidemment Néandertal, une autre humanité que vous avez été une des premières, hein, Marilyn, à révéler, mais aussi le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental, ou encore histoire de mammouth ou préhistoire de la violence et de la guerre. Alors cette fois-ci, dans ce nouvel essai très joliment, malicieusement intitulé « L'homme préhistorique est aussi une femme » qui vient de paraître chez Alary Éditions, vous vous êtes attachée, Marilyn, à sortir les femmes préhistoriques de l'ombre dans laquelle elles sont plongées depuis longtemps. Hein.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'avais constaté, en travaillant d'ailleurs sur les Néandertaliens, on disait toujours « l'homme de Néandertal ». Puis un jour, ça m'a agacée. Et je dis « mais l'homme de Néandertal est aussi une femme ». Voilà les origines de ce titre. Au départ, c'était ça ma réflexion. Et c'est pour ça que j'ai fait avec Malice et avec mon ami Pascal Leroy que j'avais fait un roman qui s'appelait « Madame de Néandertal, journal intime ». Parce que voilà, il n'y a pas que l'homme de Néandertal. Et c'est parti de cette réflexion et de ce constat que non seulement dans les écrits, mais aussi dans l'imaginaire, c'était toujours l'homme préhistorique. Alors on me disait, oui, mais tu sais, on met un grand H. Non, mais quand je dis l'homme préhistorique, on n'entend pas le grand H qui sous-entendrait les humains, hommes et femmes. Donc j'ai dit, non, je pense que là, il y a quelque chose à creuser. Et ce qui m'a motivée, c'était, comme toujours, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, en fin de compte, on a toujours des représentations très genrées. C'est-à-dire, par exemple, et je pense que tous les auditeurs vont faire le même constat, à chaque fois que l'on montre un tailleur d'outils, c'est un tailleur, c'est un homme. À chaque fois
c'est
qu'on
jamais
montre,
une artisane.
Jamais une artisane. À chaque fois que l'on montre un chasseur,
ah, c'est toujours,
c'est
un, chasseur,
toujours
hein.
un chasseur. C'est pas un chasseur ou une chasseresse. Et là, j'ai dit, mais c'est vraiment dans l'imaginaire, c'est vraiment ancré. Tout le monde pense ça. Tout le monde voit, en fin de compte, cette image un peu caricaturale qui a été maintes fois reprise de l'homme qui tire la femme par les cheveux pour l'emmener dans sa grotte.
Dans sa grotte, c'est ça, oui. Et là, alors que l'homme part courageusement voilà, chasser le mammouth, bien
voilà.
sûr.
Et là, je me suis dit, pourquoi, en fin de compte, c'est aussi passé dans l'imaginaire.
Et vous avez, enfin, vous nous donnez des pistes hein, là-dedans, c'est que la préhistoire, elle a été inventée d'abord par des hommes, mais dans un siècle où, justement, on ne pouvait pas imaginer autre chose, finalement.
Exactement, c'est-à-dire que je suis partie de ce constat, et pourquoi ? Et je suis revenue aux sources, si j'ose dire, de l'histoire de la préhistoire. Et ça commence vraiment en tant que discipline, la préhistoire, au milieu du 19e siècle, hein, vers les années 60, 1860. Il y en a un peu avant, évidemment, mais vraiment en tant que discipline, recherche, les premiers congrès, tout ça, c'est dans ces années-là. Et ce siècle, le 19e siècle, c'est un siècle où la femme est invisible. La femme, elle est mineure, elle est sous tutelle, elle est subordonnée. Elle n'a que des emplois au niveau des foyers, principalement, et surtout, elle est pour la reproduction. Donc, elle est invisible dans la société, à l'extérieur donc, de son foyer. Et je me suis dit, ce qui s'est passé, c'est que forcément, à cette époque-là, en plus, la préhistoire du départ n'est pas professionnalisée, c'est-à-dire que ce sont des amateurs qui sont des abbés, des médecins, des instituteurs.
Qui vont faire les premières
qui vont
fouilles,
faire les premières découvertes, les premières interprétations.
Et oui, parce que la préhistoire, c'est quand même toujours... Évidemment que c'est à partir de ce qu'on trouve, mais il y a une part d'interprétation.
Bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on part, je prends un exemple très simple, on part des silex que l'on trouve lorsqu'on fait des fouilles archéologiques. Parce que la préhistoire, c'est du terrain. Hein. Il ne faut pas raconter belles histoires. Il faut vraiment revenir au niveau de la science. Il faut travailler sur des faits et sur des artefacts, c'est-à-dire sur du matériel que l'on trouve lors des fouilles. Donc, voilà, on trouve ces silex. Donc, on va décrire et tout, on les analyse, on les compare à d'autres sites préhistoriques pour voir s'il y a des différences, etc. Bref, il y a tout un travail. Et après, l'interprétation, ça va être justement de calquer, lorsqu'on va parler de ces outils, parler de la vie quotidienne de ces hommes, de ces humains préhistoriques, on va dire « l'homme taille le silex ». Et ça, c'est une interprétation.
Où l'homme part à la chasse.
Où l'homme part à la chasse. Ça, ce sont des interprétations. On franchit le pas. C'est-à-dire que les faits archéologiques, les vestiges étudiés, ne montrent pas ça.
C'est-à-dire que ce que montrent les vestiges étudiés, c'est qu'effectivement, les hommes et les femmes préhistoriques ont taillé le silex, ont chassé, ont fait du feu, ont peint d'extraordinaires gravures rupestres. Mais au fond, rien ne prouve que ce soit des hommes plutôt que des femmes, ou des femmes plutôt que des hommes, d'ailleurs.
Bien sûr, ce sont les humains préhistoriques. Et après, lorsque l'on... On franchit ce pas de l'interprétation, et là, on voit très bien que c'est parce que c'est tellement ancré dans cette société très marquée, judéo-chrétienne, hein, ça, il ne faut pas l'oublier, parce que la préhistoire, elle est, dans ce siècle-là, elle est aussi en Europe, voire en France. On est vraiment, c'est le berceau de cette discipline. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, on va avoir que des hommes qui vont forcément calquer leur modèle environnemental, sociétal, sur ces comportements des hommes préhistoriques. Donc, ils vont franchir ce pas et ils vont parler vraiment d'une façon sans argument que c'était des hommes. Et alors, ce qui est amusant, Caroline, c'est que maintenant, quand on dit « oui, mais ça peut être des femmes, montre-le », mais je lui dis « mais attendez, vous n'avez pas demandé pendant des dizaines d'années à prouver que c'était bien les hommes qui ont peint Lascaux ».
Oui, alors qu'aujourd'hui, il faudrait que vous prouviez que ce sont des femmes qui ont pu être artistes. Il y a d'ailleurs une question d'un de nos auditeurs qu'on aime bien et qu'on aime bien quand même, hein, Miguel Capitao de Brazzaville sur les réseaux sociaux, mais sa question, elle est insensée. Il paraît que Madame Homo Sapiens allait à la chasse avec son mari. Quelles sont les preuves concrètes à ce sujet? Alors déjà, elle ne pouvait y aller qu'avec son mari.
Non, il n'y a pas de famille.
Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme.
Non.
Et, enfin, il y a des femmes,
sûr,
et des
groupes,
hommes,
voilà.
Mais c'est des groupes. Et puis, elle n'est peut-être pas du tout à la chasse avec son mari, justement. Elle est peut-être à la chasse toute seule pendant que son mari, il s'occupait de la grotte, non? Mais on ne sait pas.
Oui, mais justement, c'est intéressant parce que ça reflète la commune renommée. C'est-à-dire que c'est comme ça, tout le monde pense comme ça. Et par exemple, on va sans problème, on va dire que c'est l'homme qui chassait et la femme qui allait à la cueillette. Et on va pas demander de le prouver. Alors que si je dis les hommes et les femmes allaient à la chasse, on va dire mais prouve que les femmes allaient à la chasse. Vous voyez, donc c'est ça qui est complètement.
Comment sortir de ça, tout à fait. C'est une vraie question. On va y revenir parce que les nouvelles découvertes nous donnent des pistes.
Nous avons des nouvelles.
Évidemment. Voilà. Parce qu'il faut quand même dire aussi que, alors on a parlé du 19e siècle, mais au 20e siècle, grande découverte en Éthiopie dans les années récentes, souvent faite par des grands préhistoriens, hein, des grands paléontologues qui sont nettement plus souvent des hommes que des femmes autour de la question où sont les femmes en préhistoire cette fois-ci. Il y en a tout de même eu, même si elles ont souvent elles aussi été un peu oubliées, voire carrément effacées de la photo, comme la géologue et palynologue Raymonde Bonnefille, qui a dû attendre ça à la retraite, hein, pour publier aux éditions Odile Jacob un livre magnifique sur les traces de Lucie. Car Raymonde Bonnefille a participé à toutes les grandes expéditions des années 1960-70 dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, collaborant avec les plus grands paléontologues internationaux, participant à la découverte de Lucie, à la reconstitution de l'environnement dans lequel ont vécu ces hominidés. Nous avons eu la chance de recevoir cette formidable chercheuse qui n'a rien perdu de son énergie communicative et qui aime vraiment à être connue, à être lue et reconnue. Je propose d'écouter Raymonde Bonnefille partager ses recherches et ses expériences. C'était le 25 mars 2019, ici même dans ce studio.
Le domaine de la géologie et le domaine de l'anthropologie étaient très masculins, encore peut-être plus que maintenant, mais il l'est
presque
encore.
Exclusivement masculin, hein, on entend.
Ah, presque exclusivement, oui. Donc, lorsque j'ai été contactée par Yves Coppens, qui dirigeait cette expédition dans la vallée de l'Omo, à l'époque, la théorie sur, disons, le passage de la forêt à la savane, qui expliquerait une partie de l'hominisation de nos ancêtres, j'ai proposé de reconstituer la végétation ancienne, puisqu'à ce moment-là, j'ai dit, mais moi, une forêt, une savane, je dois pouvoir reconnaître en me servant des pollens fossiles, les pollens des fleurs, qui sont des millions de grains microscopiques.
Et ça permet, hein, c'est pour ça que votre rôle en tant que géologue et palynologue, de faire la cartographie géologique du terrain, de se rendre compte de ce que c'était que le paysage à l'époque de Lucie.
Oui, il y avait une autre idée, c'est qu'effectivement, il fallait connaître le paysage actuel. Vous savez, à cette époque, et surtout ce coin reculé de l'Éthiopie, aux confins du Kenya, du Soudan, c'était vraiment pas connu du tout.
Alors, non seulement vous êtes une femme dans un milieu exclusivement masculin, je sais pas comment vous avez fait, mais en plus, vous êtes une femme qui avait participé, vous avez intéressé aussi les Américains, à la fois aux expéditions françaises et aux expéditions américaines. Vous étiez vraiment espèce d'ovni, et puis anglaise, un espèce d'ovni, un espèce de pont entre tous ces paléontologues, des hommes, des mâles alpha, on va dire, hein, et vous au milieu, sur ces terrains, sur le terrain en Éthiopie.
Oui, j'ai peut-être été entourée aussi de gens assez exceptionnels, auxquels je rends hommage dans le livre avec des beaux portraits. Moi, ça m'a beaucoup plu, ce genre de travail. C'était une vraie passion.
Dans des conditions difficiles, quand même. Et à l'époque, il n'y avait pas de liaison.
Oui, les conditions les plus difficiles sont la chaleur. Il n'y avait pas de route, il y avait le tout-terrain. Il n'y a plus d'animaux sauvages tels qu'il y en avait. On était obligé de faire...
Vous avez conduit sur ces routes.
Oui, dans la phare, oui. Quand j'ai dû aller les 700 km qui descendaient depuis Addis Abeba, là, c'est une mémoire.
Mes accompagnateurs n'étaient pas tellement rassurés qu'il y ait une femme au volant sur ce genre de piste.
Ah oui, ça c'était les locaux de la tribu des Afars. Ça c'est plus tard, j'avais déjà 6 ans d'expérience dans la vallée de l'Omo.
Alors qu'est-ce que c'est que 700 km sur des pistes ?
J'étais très fière.
Vous n'êtes pas dans la concurrence, en tout cas jamais. Hein. On sent bien que vous parlez à la fois de tous ceux qui vous accompagnaient, les grands paléontologues. Si on vous a parfois effacé de la photo, hein, au sens propre comme au sens figuré, vous n'effacez personne de la photo.
Ben oui, peut-être c'est une sorte de bienveillance et de reconnaissance. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut cultiver. Je pense que c'est aussi peut-être cette... Bon, j'avais de la jeunesse, de l'enthousiasme, mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu continuer dans toutes les expéditions, parce que je les ai faites presque toutes.
Alors à chaque fois, presque toujours pratiquement la seule femme, vous racontez un épisode de douche, je ne sais pas si on va s'étendre là-dessus, vous avez envie de nous le raconter, parce que je trouve qu'il est parlant, tout seul.
C'était lorsque je participais à l'expédition américaine, donc on était à quelques kilomètres de la rivière. Disons que la corvée d'eau était quelque chose, il fallait beaucoup d'eau. Ben, les ouvriers et les chercheurs, les jeunes chercheurs, qui étaient des thésards américains pour la plupart, allaient à la rivière. Ils prenaient leur douche en étant arrosés avec un jet d'eau et une pompe. Et les seniors, donc les deux ou trois seniors qui étaient là, nous avions droit à une douche. Et la douche, elle était sur un promontoire et elle n'était pas fermée, elle était ouverte sur la nature. Voilà. Et donc, il y a eu un petit incident où un jour, j'ai été interdite de douche et je ne savais pas pourquoi.
Et vous l'avez assez mal pris parce que ce n'était pas juste.
Et ben, c'est surtout qu'on ne m'expliquait pas la raison.
C'est ça.
Et alors, je l'ai pris comme une sorte d'insulte à ma féminité. En fait, bon, il y avait...
Il y avait rien qui protégeait des regards et donc vous étiez un peu regardée...
Par les soldats éthiopiens, ces jeunes gens qui s'ennuyaient dans la... les pauvres.
Ça peut paraître anecdotique, cette histoire de douche pour Raymonde Bonnefille, mais quand on lit son livre, hein, Sur les pas de Lucie, elle était blessée parce qu'elle était finalement mise de côté. On ne lui disait même pas pourquoi elle n'avait pas le droit de prendre une douche. Enfin, il y a aussi ce côté, je ne sais pas si elles sont invisibles, hein, le sous-titre de votre ouvrage, L'homme préhistorique est aussi une femme, Marianne Patoumati, c'est une histoire de l'invisibilité des femmes, du manque de considération en l'occurrence.
Oui, je ne connaissais pas cette anecdote, mais est-ce que je trouve que c'est... assez scandaleux qu'on ne reconnaisse pas qu'on dit toujours des grands paléontologues, mais c'est une grande paléontologue.
Absolument.
Donc je veux dire, il faut arrêter ça aussi. Il n'y a pas des grands, des petits, des plus grands, des moyens. Ce n'est pas vrai. Il y a des chercheurs de qualité et c'est dans tous les domaines et ce n'est pas genré. Et je trouve, vous voyez, ça m'émeut ça, son interview parce que c'est une telle modestie, mais aussi quelque part, il y a quand même une petite blessure, je pense.
Certainement.
Et je trouve que, vous voyez, je ne suis pas sûre que l'hommage qu'elle rend à plusieurs de ces grands paléontologues, on lui a envoyé l'ascenseur, si je peux me permettre l'expression.
Ben
un
oui,
peu légère.
Chercheuse de pollen, ça voilà, fait chercheuse moins, de pollen. Moins bien que
c'est
chercheur
pas vrai,
d'os.
C'est pas vrai, parce que toutes les disciplines sont importantes. En préhistoire, vous savez, il n'y a pas une discipline qui prévaut sur l'autre, une spécialité qui prévaut sur l'autre. C'est un ensemble qui crée, justement, les bons résultats. C'est, on va faire la sédimentologie, la chronologie, l'anthropologie, l'étude des outils, l'étude des restes animaux, etc. Donc c'est à partir de ces études différentes, de spécialistes différents, qu'on peut construire, reconstituer ce qui s'est passé. Et là, voilà, je suis très émue et je pense qu'elle est une grande paléontologue oui. Et qu'il n'y a pas que des grands paléanthropologues. Voilà.
Et en plus, elle est, comme vous dites, très bienveillante et toujours très discrète. Moi, elle m'a marquée aussi, hein, Raymonde Bonnefille. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que votre ouvrage, hein, Marianne Patoumati, se base aussi sur les plus récentes découvertes. Qu'est-ce que nous dit, si on essaye de regarder avec le, comment dire, avec les lunettes les moins opaques possibles, la préhistoire ? Qu'est-ce que nous disent les nouvelles découvertes sur les femmes et les hommes préhistoriques ?
Bah déjà, on a comme indice, si vous voulez, on peut regarder, en tout cas, c'est deux types de vestiges, à mon avis, très importants. Les squelettes humains, évidemment, les restes humains, faire une analyse très pointue que font mes collègues paléanthropologues, voilà, sur la robustesse, sur les marques sur les os, parce que les activités répétées laissent des marques sur nos os. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une lanceuse de poids, vous allez avoir, au niveau du membre supérieur, des bras, etc., sur les os eux-mêmes, des traces, nous, ce qu'on appelle des traumatismes, qui sont marqués et qui montrent que, voilà, cette activité était pratiquée. Et donc, on regarde tout ça. En plus, maintenant, nous avons l'ADN. Mmh. Et ça, c'est très important parce que, malheureusement, on ne trouve pas toujours des beaux squelettes bien complets, bien entiers, bien magnifiques,
bien sûr,
qui permettent de savoir si on a affaire à un homme ou une femme. Et très souvent, on est asexué, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire si c'est un homme ou une femme. Et là, avec l'ADN, on peut le savoir. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, bien sûr, c'est tout ce qui est en rapport à l'art, à la diversité de la statuaire, des représentations et tout, où là, on voit que dans l'art paléolithique, il y a peu de représentations d'hommes, d'humains, on va dire, et que dans ces représentations, 80 à 90% sont des représentations féminines. Soit ce sont des silhouettes, soit c'est les fameuses statuettes qu'on appelle Vénus, soit ce sont des vulves. Donc on est beaucoup dans le féminin. Donc c'est en analysant ces données qu'on peut avancer. Par exemple, si on reprend le côté des squelettes, on s'est aperçu, premièrement, que ce soit avec les Néandertaliens d'ailleurs ou les sapiens, les premiers sapiens, que la robustesse n'était pas exclusivement masculine. C'est-à-dire que vous aviez, là aussi, de cette époque, des femmes robustes, des femmes avec une musculature assez puissante. Le dimorphisme sexuel, de toute façon, est marqué, mais relativement peu marqué.
Il était moins marqué finalement dans la préhistoire peut-être que plus récemment, les différences de taille, de proportion.
Oui, mais même récemment, regardez, en fin de compte, c'est un peu un leurre. C'est-à-dire que si, bien sûr, on travaille sur des moyennes. Alors les moyennes, évidemment, ça donne quelque chose, une différence marquée de taille et, ou de poids. Mais en réalité, quand vous voyez beaucoup de populations, ça varie énormément. Il y a des populations où les femmes sont beaucoup plus robustes que les hommes, sont plus lourdes, etc. Donc, c'est pas si simple. C'est pas, il ne faut pas essentialiser, globaliser, dire ça y est, tout le monde est pareil. Donc, c'est, si vous voulez, c'est beaucoup moins marqué, je pense, que chez les chimpanzés, par exemple, ou chez les premiers humains, ou en tout cas, les anciens des premiers humains.
Il y a des plus grandes différences biologiques.
Marquées, biologiquement marquées, voilà. Et donc, ce qui est important, déjà, c'est de voir ça. Donc ça, on ne peut plus, si vous voulez, raisonner sur le fait, comme l'ont dit tous les médecins, tous les discours médicaux du 19e siècle qui ont fait des femmes des êtres fragiles, hein, et au petit cerveau, on s'aperçoit que ça ne marche pas bien, ça, puisqu'en fin de compte, elles sont robustes. On regarde les marques et on s'aperçoit que sur certains squelettes, je dis bien là aussi, ce n'est pas toutes les sociétés. Là aussi, il n'y a pas une société préhistorique. Voilà,
bien
on
sûr,
travaille sur
des petits groupes,
bien sûr,
des clans.
Moi qui travaille avec les Néandertaliens jusqu'au premier savant, tout ça, on est sur 400 000 ans, voilà, jusqu'au néolithique.
Donc, ne pas essentialiser.
Il n'y a pas une société préhistorique, ça a énormément varié. Donc, évidemment, les bien choses sûr. N'étaient pas, les statuts sociaux n'étaient pas les mêmes dans les différents groupes et tout. Donc là, on s'aperçoit que il y a des développements musculaires plus marqués sur un bras que sur l'autre. Sur les squelettes masculins, mais aussi sur des squelettes féminins. Donc évidemment que là, on peut supposer qu'il y avait l'utilisation d'objets, notamment pour lancer, donc peut-être lancer des sagaies, ou en tout cas faire une participation possible donc, à ces fameuses chasses. Et que les femmes n'étaient pas seulement, comme on l'imaginait sans aucune preuve, qu'elles étaient des rabatteuses. Alors j'aime bien, c'est que d'un côté, on va dire, les femmes étaient moins mobiles,
mais en même temps,
à cause des grossesses, mais elles étaient rabatteuses. Vous savez, rabatteuses de gibier, c'est, surtout à l'époque, c'est pas
un
facile.
Sacré boulot,
et
on court.
Puis en plus, la cueillette, si on suppose que c'est genré, donc les femmes sont à la cueillette aussi, ça, il faut être mobile. Donc, vous voyez, on revient un peu sur tout ça. Sur le fait aussi, vous savez, les peuples nomades, chasseurs-cueilleurs nomades, parce que là, on parle de ces peuples qui vivent de la nature.
Chasseurs-cueilleurs que vous avez étudiés, avec qui vous avez vécu
voilà,
au Kalahari, avec
au Kalahari, tout à fait.
Vous avez travaillé avec eux.
Exactement. Et là, si vous voulez, ces peuples-là, au niveau des naissances, du sevrage, etc., c'est très espacé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, peut-être ça peut être sur 5 ans, où il n'y a pas un deuxième enfant. Donc on n'est pas tout le temps, cette image aussi de la femme toujours enceinte,
et
tout
oui,
ça est remis en question.
Les femmes de la préhistoire étaient nomades, bougeaient, espacées, leur grossesse était espacée. Et donc ce n'était pas ce statut-là.
Voilà. Et autre chose aussi qui est fou, c'est qu'on voit par exemple l'association avant qu'on ait la possibilité de vraiment sexuer les squelettes, c'est-à-dire avec l'ADN, on avait quelque chose qui est vraiment un argumentaire complètement, à mon avis, fallacieux, c'est qu'on disait, voilà, ce squelette, il y a des armes, enfin des outils, etc., donc c'est un homme. Mais c'est complètement faux, parce qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas comme ça, qu'en fin de compte, quand on a pu mettre un sexe sur le squelette, par exemple, souvent on a eu du féminin qui était associé à des armes. Donc là, je parle pour les périodes un peu plus récentes. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment on a construit vraiment quelque chose qui reposait sur pas grand-chose.
Et comment le déconstruire aujourd'hui ? L'homme préhistorique est aussi une femme. C'est le très bon titre de votre essai, Marilène Patoumatis, qui nous remet un petit peu les idées en place. Vous avez eu envie d'écouter une des plus grandes voix féminines de ce siècle et du siècle dernier, c'est Juliette Gréco.
Oui.
La regrettée Juliette Gréco, titre de circonstance, on n'oublie rien sur RFI.
On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien. De rien, on s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrapes-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni ces amours que l'on poursuit à travers cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni ces bras blancs d'une seule nuit, collier de Jules pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde.
On n'oublie rien avec Juliette Gréco sur RFI en votre compagnie, Marilène Patou-Matisse, même si on a longtemps oublié, comme vous nous le rappelez dans votre dernier essai, que l'homme préhistorique est aussi une femme. On l'a beaucoup oublié autour de la question « Mais où sont donc les femmes préhistoriques ?» On ne les a jamais imaginées, par exemple, pouvant peindre les grottes, grotte de Lascaux ou autres.
Mais oui, parce que, et là, justement, on parlait des nouvelles découvertes. Ça allait même plus loin. On pensait même que les femmes ne rentraient pas dans le monde souterrain. Elles vivaient à l'entrée des grottes, ou, voilà, mais elles ne pénétraient pas dans ces couloirs.
On avait été jusque-là, c'était
réservé aux hommes.
Rien ne justifiait
C'était... Voilà, donc elles n'étaient pas rentrées dans le monde souterrain pour aller peindre. Et en fin de compte, on a découvert, maintenant ça fait un petit moment, et on a des nouvelles découvertes aussi en Indonésie, un peu partout, et des nouvelles analyses, permettent de voir les fameuses mains. Vous savez, il y a beaucoup de mains dans l'art pariétal.
Des mains sur la paroi.
Sur la paroi. Et ces mains, si vous voulez, notamment les mains négatives, c'est-à-dire qu'on met sa main et on crache le colorant, on enlève sa main, vous savez, c'est le style pochoir. Et donc, on a fait des nouvelles analyses et on peut déterminer si c'est des mains féminines ou masculines. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la taille, il y a aussi une morphologie un peu différente de la main. Et donc, maintenant, on s'est aperçu que dans plusieurs grottes, il y avait des mains féminines et des mains masculines. Parce que très souvent, on disait il y a des mains...
C'est les mains d'enfants.
Exactement. On disait il y a des mains d'adultes et des mains d'enfants, mais toujours masculins, évidemment. Et donc là, d'un seul coup, on s'est aperçu qu'elles avaient été au fin fond de certains couloirs. Elles étaient rentrées, elles avaient laissé des traces de leur passage. Et on s'arrête là. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas ouvrir l'hypothèse proposer, au lieu de dire que toutes les peintures ont été réalisées par des hommes, pourquoi ne pas ouvrir l'hypothèse qu'il y a aussi des femmes ? Et peut-être certaines grottes ou certaines parois, dans certaines galeries, etc., ont été peut-être faites que par des femmes, et dans des endroits que par des hommes, par les deux, etc. Ouvrir
cas,
cette possibilité.
Ouvrons les fenêtres et ouvrons les hypothèses.
Parce
absolument.
Que vous savez, il y a beaucoup de peuples comme les aborigènes d'Australie, dans certains groupes aborigènes, là aussi certains groupes, on a les femmes qui peignent. Donc on ne voit pas pourquoi elles seraient rentrées là, elles auraient laissé que leurs mains.
Alors, il n'y a aucune raison, effectivement, de présupposer cette inégalité originelle entre hommes et femmes. Et c'est là-dessus aussi, alors vous divergez, Marilène Patou-Matisse, avec une formidable penseuse féministe de l'anthropologie et de l'ethnologie. J'ai nommé Françoise Héritier, la regrettée Françoise Héritier, pour qui la distinction entre féminin et masculin est universelle. Je la cite, partout, de tout temps, en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin. Elle appelait ça la valence différentielle des sexes. Et là-dessus, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Enfin, je vous propose d'abord d'écouter Françoise Héritier, à qui vous rendez évidemment hommage. J'ai eu l'immense chance de la recevoir en novembre 2013, c'était 4 ans avant sa mort. Je vous propose d'écouter cette anthropologue, ethnologue, féministe et écrivaine, élève et héritière au Collège de France de la chaire de Claude Lévi-Strauss, à la pensée toujours en mouvement, partager avec nous sa position d'anthropologue engagée.
C'est davantage mû par le sentiment de l'injustice. Le sentiment de l'injustice, c'est bien entendu devant des situations concrètes, particulières, individuelles, mais devant cette situation universelle du fait de cette position cadette qui est faite aux femmes dans les différentes sociétés. Ça, on le retrouve partout. Et comme c'est une injustice fondamentale, et elle tient compte d'une organisation de la pensée qui s'est mise en place, disons, il y a 200 000 ans à peu près, à une époque où on n'était pas très nombreux sur Terre, bon, et où on n'avait pas tous les recours scientifiques que nous avons, tous les acquis que nous avons maintenant, et où nous devions nous-mêmes faire toutes ces organisations logiques, ces organisations mentales et faire avancer la connaissance. Et donc nous avons répondu devant la présence d'un certain nombre de questions mystérieuses. Pourquoi les femmes font des enfants des deux sexes alors que les hommes n'en font pas de leur propre corps? Ben, c'est quand même une grosse question que l'humanité s'est posée, si on en juge par les mythes que l'on peut trouver sur la question. Mais la réponse qui a été donnée n'est pas la bonne réponse. Et la réponse a été, alors qu'on sait que les hommes et les femmes concourent parce que les femmes donnent des ovules et les hommes des spermatozoïdes. À cette époque, on ne savait pas qu'il y avait des ovules et des spermatozoïdes. On les a découverts seulement à la fin du 18e ou au début du 19e siècle.
C'est tout récent. Or, on vit toujours.
Mais on vit toujours avec le modèle ancien qui était élaboré alors qu'on ne savait pas ça. Mais ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait le coït et qu'il y avait le passage d'une substance d'un corps à l'autre. Et donc, l'idée, c'était que c'était les hommes qui mettaient les enfants dans le corps des femmes et qu'il fallait qu'ils s'approprient des femmes pour avoir des fils semblables à eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de faire des fils. En quelque sorte, ils considéraient que la nature leur donnait des femmes pour qu'ils puissent avoir des fils.
Et ça n'a pas bougé. Mais comment faire bouger ça?
Très difficile. J'essaye de l'expliquer, mais c'est très difficile. Parce que ça implique de faire changer tout le système de mise en place qui implique non pas la violence physique à proprement parler, bien qu'elle puisse exister dans certains cas individuels. Mais ce n'est pas un modèle imprimé par la violence. Il se reproduit par l'éducation, tout bêtement. Mais par l'éducation avec un certain nombre de piliers. Ces piliers, c'est l'impossibilité de disposer librement de son corps. Les femmes ne pouvaient pas se marier comme elles voulaient, ne pouvaient pas avoir le nombre d'enfants qu'elles voulaient, ne pouvaient pas même se soigner comme elles voulaient. Bon, dans la plupart des sociétés, et même chez nous jusqu'au 19e siècle. Bon. L'impossibilité d'accéder au savoir, encore maintenant. La masse des illettrés, des analphabètes...
Ce sont des femmes.
Ce sont des femmes. Bon. Et l'impossibilité d'accéder aux lieux de pouvoir, aux situations de pouvoir. C'est toujours vrai avec le plafond de verre dans les entreprises, et puis le politique, le religieux, enfin, toutes les situations
de force. C'est
difficile
de faire une pensée en mouvement, de faire bouger notre pensée,
et il y a
la pensée
derrière,
collective.
Ben, tout ce langage, qui est le langage de la domination, qui passe par le sarcasme, la moquerie, le déni, le mépris, le dénigrement, vous voyez, et c'est le langage même de la domination. Alors à l'heure actuelle, on a un projecteur qui est fixé sur les stéréotypes et les préjugés, etc. On a raison, parce que c'est le langage de la domination. Mais c'est le liant, si vous voulez. Mais il faut travailler sur tous les piliers à la fois.
Là-dessus, vous êtes évidemment d'accord avec Françoise Héritier, Marilène Patou-Matis. Vous travaillez sur tous les piliers hein, de cette inégalité. Sauf que là où vous n'êtes pas d'accord avec Françoise Héritier, sur cette inégalité originelle. Pour vous, c'est pas universel à toutes les sociétés et ça n'a pas toujours été le cas,
voilà.
C'est ça ?
Je pense qu'il y a un peu une extrapolation et je crois que ça vient du fait qu'on n'entend pas chacun la même chose quand on dit préhistoire. Oui. Moi, je pense qu'il y a une situation, il y avait une situation différente en fonction du type des sociétés. Et là, ce dont on parle pour le paléolithique, pour la préhistoire ancienne, pour les Néandertaliens et les Sapiens, c'est là qu'on connaît quand même le mieux, qu'à ces périodes-là, si vous voulez, on est dans une société de prédation, on prend tout sur la nature, nous sommes dans une société nomade,
des chasseurs-cueilleurs.
Chasseurs-cueilleurs, des petits groupes, une très faible démographie, des petits groupes, et donc c'est un autre style de société qu'on va avoir plus tard. Et je pense qu'il y a dans ces sociétés-là, de ce type-là, à l'origine, probablement ce que l'on peut appeler un équilibre entre les deux sexes. C'est-à-dire que c'est une société qui, à mon avis, pour fonctionner, elle a fonctionné puisque nous sommes là, elle a dû trouver cet équilibre. Et cet équilibre se trouve dans la complémentarité. Mais cette complémentarité ne peut fonctionner, ne peut avoir de bons résultats que si elle n'est pas genrée, c'est qu'elle est en fonction des capacités de chacun.
D'accord, elle est malléable, au fond. C'est pas une société du néolithique installée avec l'agriculture qui a besoin de...
Bien sûr.
Elle est beaucoup plus malléable, elle est nomade, beaucoup plus,
voilà,
exactement,
et en fonction de l'aptitude de chacun à un moment précis. C'est pour ça qu'on peut envisager ce qu'on a vu dans certains groupes, même période plus récente, c'est-à-dire des sociétés où il n'y a pas un chef fixe, mais que celui qui va prendre la décision d'aller à la chasse et tout, ça va être un tel parce qu'il est reconnu ou une telle.
C'est la valeur intrinsèque de l'individu et pas sa valeur sexuelle.
Exactement, pour une autre décision de changer de campement, de territoire, etc. C'est peut-être un autre, etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus souple qui permet justement que ça tienne.
Et avec moins de hiérarchie, enfin, c'est peut-être la hiérarchie qui semble être installée de tout temps. Les hommes sont supérieurs et les femmes sont inférieures. C'est ça qui...
Bien sûr, et c'est pour ça que je pense qu'après, si vous voulez, c'est pour ça que dans mon livre, je quitte le paléolithique pour aller vers le néolithique, évidemment, où là, c'est vraiment radicalement différent.
C'est l'invention de l'agriculture, sédentarisation.
C'est l'agriculture, la sédentarisation, d'abord, après l'agriculture, l'élevage. Et là, on va changer vraiment de type de société. On va voir s'installer une société, au départ ça va assez bien, peut-être même, on n'a pas le temps d'en parler, peut-être même les femmes sont très impliquées dans l'origine de l'agriculture. Et après, petit à petit, on voit que ce modèle de société qui est maintenant sur la production, le stockage de nourriture, on a des biens, on va échanger, il faut les protéger. Donc, on voit apparaître des castes, on va apparaître une élite. Et on le voit
une
hiérarchisation. Et on le voit dans les tombes, c'est-à-dire qu'elle est marquée au niveau archéologique. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien aussi que malgré ça, il y a des femmes qui sont ce qu'on appelle, voilà, une amie, Anne Augereau, qui avait fait un très beau travail sur les femmes néolithiques, des femmes en apparat, c'est-à-dire qu'on voit dans les sépultures des hommes riches, mais aussi des femmes riches. Des femmes qui font partie peut-être de l'élite et tout. Donc, ce que je pense, et qu'on est plutôt dans un système de division du travail, mais division sociale plus que sexuée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont travailler dur, etc. Et puis une élite qui va travailler moins dur, on le voit sur les squelettes, hein, ils sont en parfaite santé, si j'ose dire, parce qu'ils sont morts. Mais, et puis avec des bijoux, avec ce qu'on appelle en apparat, avec des objets, etc. Donc on voit que...
Là encore, pas de hiérarchisation sexuée, ou en tout cas pas pour le moment et pas dans la préhistoire.
C'est-à-dire que voilà, et on voit que tout ça se met en place et que c'est plutôt cette hiérarchisation, ce changement d'économie, de société, surtout de type de structure sociale, qui, à mon avis, a été dur pour les femmes. Hein, parce que là, comme parlait très justement Françoise Héritier, moi, je pense qu'au paléolithique, je ne suis pas convaincue du tout que les hommes savaient qu'ils participaient. Hein. Il y avait encore des peuples, il n'y a pas si longtemps, qui pensaient que c'était les esprits qui engrossaient les femmes. Donc, je ne suis pas convaincue qu'ils le savaient. Ils voyaient simplement que... Mais au moment de la domestication, tout change. Parce que quand vous avez des animaux, ils vivent à ce moment-là à proximité des humains, vous voyez très bien dans les enclos qu'il y a des petits cochons roses et des petits cochons noirs et qu'il y a des petits cochons roses et noirs. Donc vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, que les mâles et femelles participent l'un comme l'autre à la naissance des petits. Donc je crois que c'est ces bouleversements, et là aussi pas partout. Surtout, Caroline, ce que je voudrais faire passer aux auditeurs, c'est qu'il faut faire très attention. Je pense que dans des sociétés, il y avait des sociétés plus matrilinéaires que d'autres, etc. Mais c'est pas uniforme. Mais en tout cas, je pense qu'il faut casser l'image, si vous voulez, de quelque chose qui s'enracine très très loin. Le patriarcat, pour moi, est relativement, parce que moi je suis préhistorienne, évidemment, tout est...
Et relativement récent. Enfin, pour vous, relativement récent, c'est quand même loin. Mais
même si ça remonte à 6000 ans, mais c'est relativement récent.
C'est relativement récent pour la préhistorienne que vous êtes. Et à l'époque, donc il y a quoi? Pendant la préhistoire, peut-être que Clara Luciani, qu'on propose d'écouter maintenant sur RFI, n'aurait pas lancé sa grenade.
Blafarde. ne suis qu'un animal déguisé au matin.
La grenade lancée par Clara Luciani sur RFI autour de la question où sont les femmes dans la préhistoire et jusque dans notre histoire en compagnie de la préhistorienne Marilène Patoumatis qui vient de publier L'homme préhistorique est aussi une femme sous-titrée Histoire de l'invisibilité des femmes, sujet malheureusement inépuisable, notamment dans l'histoire des sciences. Un des exemples les plus frappants est peut-être celui de la mathématicienne de génie et philosophe Sophie Germain auquel Sylvie Daudelaire, auteur, a consacré une super biographie à destination notamment des jeunes qui fréquentent et des jeunes filles qui fréquentent le lycée Sophie Germain à Paris sans avoir aucune idée ni du talent ni de la vie de cette génie mathématicienne et révolutionnaire qui a donné son nom à un théorème et qui a dû se déguiser en homme pour être écoutée à l'époque au XVIIe puis au XVIIIe siècle avant d'être encore oubliée, quasiment effacée de nos mémoires, comme l'explique Sylvie Daudelaire.
À un moment donné, on l'a sorti un peu de son placard au 19e siècle quand on a ouvert des lycées pour filles. Donc il fallait quand même qu'on trouve des figures, des modèles scientifiques ou autres pour donner des noms justement à ces lycées. C'est ce qui est arrivé à Paris. Et pour le reste, j'ai l'impression, déjà je trouve que ces travaux sur les surfaces élastiques, ils auraient dû être suivis et que les gens qui ont continué les recherches auraient dû la citer davantage. Mais elle a disparu. Elle a disparu des annales. Elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire, mais comme beaucoup de femmes scientifiques, hein. Ça a été théorisé il n'y a pas très longtemps sous le nom de l'effet Mathilda. Alors c'est un petit peu l'origine est un petit peu bizarroïde, mais c'est le nom d'une féministe, c'est le prénom d'une féministe en tout cas. Et on s'est aperçu, c'est une femme qui a travaillé sur le sujet, et elle s'est aperçue que bon nombre de découvertes qui avaient été faites par des femmes scientifiques avaient été détournées, voire volées par leurs collègues masculins. Et donc, elle a théorisé ça sous le nom de l'effet Mathilda. Du coup, l'effet Mathilda, ça montre un petit peu quel est ce phénomène d'invisibilisation, de diminution, de minoration des femmes dans les sciences.
L'effet Mathilda, il continue de frapper. Espérons que grâce à vous, entre autres, et d'autres, et puis grâce à notre évolution, à tous, hein, ça va changer, hein, Marilène Patoumatis.
Oui, et puis en plus, on peut élargir. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans les sciences, hein, partout.
Et dans, là, l'art, c'est, dans l'art,
dans l'art, partout. Et là, c'est très intéressant ce moment, ce qui se passe, parce que beaucoup de collègues historiennes sortent des livres super sur justement toutes ces femmes qui sont dans la littérature, qui sont dans les peintures, partout, qui ont été complètement oubliées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses. Elles n'étaient peut-être pas très visibles à certaines époques, mais elles étaient visibles. Et je crois qu'il y a eu toute une période, fin 18e, 19e surtout, où on les a, les historiens, là aussi, quasiment tous des hommes, hein, les historiens, c'est comme les préhistoriens, au 19e, ils ont effacé, ils ont construit un roman national, une histoire et tout, où il n'y a plus les femmes, alors qu'elles ont existé. C'est pour ça que je voulais terminer ce livre, mon livre, pour montrer qu'il n'y a pas des victimes, on n'est pas des victimes. Il y avait des femmes qui se sont...
Il n'y a pas de guerre, hein, il n'y a pas de guerre contre les hommes et on n'est pas des victimes.
Exactement. Hein. Voilà. Il y a toujours eu des femmes à chaque période qui se sont battues au sens propre, au sens figuré. Il y a eu des chefs de guerre, il y a eu des guerrières. Voilà, donc il y a eu vraiment dans plein de domaines, elles ont existé, mais elles ont été effacées, gommées, et je pense en grande partie, même si c'est vrai qu'elles étaient quand même minoritaires, mais en grande partie par ce siècle assez terrible pour les femmes, où on les a carrément effacées, puisque je crois que ça faisait pas bien, disons, dans le tableau, sans doute, je ne sais pas.
Et aujourd'hui,
pour justifier leur subordination, bien sûr.
C'est ça, bien sûr, pour justifier leur aliénation, leur subordination, de même que le siècle de la colonisation, enfin, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment dans cet ordre hiérarchique-là. Et au fond, c'est plutôt quoi ? Une bonne nouvelle aujourd'hui, ce que vous nous dites, Marilène Patoumatis, c'est qu'il n'y a pas de raison de rester figé sur un ordre naturel des
Bien
choses
sûr.
qui hiérarchiserait notre humanité, de quelque manière qu'elle soit. Hein,
exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette construction, d'ailleurs, comme pour ce qu'on appelle les races, hein, qui n'existent pas, mais qui a été au 19e siècle. Vous savez, au 19e siècle, on classe et on hiérarchise. Mmh. On a hiérarchisé les races, et au sein des races, on a hiérarchisé les hommes et les femmes. Et évidemment, il y a des inférieurs et des supérieurs. Tout ça, c'est foutaise. Ça repose sur rien. Mais malheureusement, c'est très fort. Et donc, dans cette histoire-là, en fin de compte, on a là aussi décrété que les femmes étaient déjà par ordre divin, parce que parlé des textes religieux, mais je fais référence dans l'ouvrage, où elles étaient inférieures par ordre divin, et en plus elles vont devenir à la fin du 18e et au 19e inférieures par nature. Tout ça, non, c'est faux. On a vu que l'histoire du cerveau, tout ça plus petit, ça n'a aucun sens. Donc tout ça est remis en question. Le fait aussi de proposer l'hypothèse, de travailler sur des hypothèses nouvelles sur ces femmes durant l'époque préhistorique,
ça ouvre
de montrer que cette hypothèse, parce que c'était quand même une hypothèse, de l'existence du patriarcat de tout temps, comme si c'était originel et par nature, c'est faux. Et qu'il faut, à mon avis, voir ça différemment et en changeant le regard, en s'ouvrant à des nouvelles hypothèses, je pense qu'on va avoir de plus en plus de choses. Je vais faire un comparatisme audacieux.
Oui, au fond, on ne trouve que ce qu'on cherche. Hein,
exactement, je vais faire un comparatisme audacieux. C'est comme pour les Néandertaliens. Pendant très longtemps, vous savez, je me suis battue en 2006, j'ai sorti, on m'a pris pour une douce rêveuse, que les Néandertaliens, c'était une autre humanité. Ils savaient faire plein de choses. Et une fois qu'on a compris qu'ils pouvaient le faire, on a trouvé. Et maintenant, d'ailleurs, il y en a qui pensent que c'est même mieux que Sapiens. Ce que je dis, il ne faut pas hiérarchiser.
Oui, il ne faut pas hiérarchiser. C'est ça que j'ai envie de retenir de votre travail, et je vous suis effectivement depuis longtemps. Voilà, et comme Néandertal,
c'est très important. Exactement, les femmes comme les hommes ont participé à l'évolution de l'humanité.
Merci Marie-Hélène Patou-Mathis d'être venue en direct pour nous le rappeler sur RFI. Je rappelle le titre de cet ouvrage salutaire, c'est votre dernier, L'homme préhistorique est aussi une femme, sous-titré Histoire de l'invisibilité des femmes, à lire absolument aux éditions Alary. Et vous revenez quand vous voulez, Marie-Hélène, nous faire partager toutes vos recherches préhistoriques.
Merci, ça fait un plaisir.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, si vous le voulez bien, pour la suite de nos rediffusions estivales avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir et vous remercier de votre curiosité, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les infos.